À présent, avec vous Adrien Zerbini, on s'intéresse aux plantes médicinales. Certaines d'entre elles ont un effet sur la santé qui a été validé scientifiquement.
Exactement, les remèdes de grand-mère, comme on les appelle parfois, ces plantes qui peuvent pas nous faire de mal, comme on dit. Et bien souvent, on pense que la tisane qu'on va prendre, on va la prendre en attendant de prendre un médicament. Seulement aujourd'hui, on peut utiliser les mêmes protocoles scientifiques pour valider l'effet sur la santé d'une plante que d'un médicament. Si les publications sur les plantes sont rares, c'est peut-être pour des raisons économiques, mais il n'empêche que pour certaines plantes, les études confirment tel ou tel effet. Et ces études, elles se multiplient. On arrive à des preuves tout à fait solides sur ses efficacités.
Et deux chercheurs romans viennent de publier un ouvrage justement sur ce sujet.
Les 33 plantes validées scientifiquement aux éditions Favre. C'est un livre qui ne se limite pas à présenter 33 plantes, mais qui propose des chemins de décision. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors c'est un outil pour faire le meilleur choix possible de ces plantes en automédication et puis aussi pour pas faire de l'automédication quand il faudrait aller voir un médecin d'urgence, voyez. Il est donc question de 33 plantes réparties en 8 chapitres ayant des thèmes comme les plantes pour la tête, chapitre 1, c'est pour vous Stéphane, les plantes pour la digestion, c'est pour moi, chapitre 2, ou encore les articulations,
c'est pour vous, vu votre grand âge,
chapitre 8. Ce que je vous propose, c'est de commencer par quelques exemples concrets parmi ces plantes, puis nous nous intéresserons plus globalement à la démarche, l'intérêt de se pencher aujourd'hui sur ces plantes pour notre santé, la pertinence d'avoir une approche clinique sur ces savoirs ancestraux.
Les deux auteurs, les deux co-auteurs de ce livre sont avec nous aujourd'hui dans CQFD. Bertrand Graz, tout d'abord, bonjour.
Bonjour.
On prononce Graz ou Graz ?
Comme vous voulez. Quand je suis en Allemagne, je dis même Graz.
Graz,
comme
oui,
la ville.
Oui, la ville autrichienne.
Autrichienne.
Hein, on est d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ici ? Graz.
Oui.
Ça vous ça,
ou même
Graz.
Si vous voulez faire comme Perraudette ou Barboleuse.
Voilà, exactement. On peut le faire comme ça. Et à vos côtés, Jacques Falquet, bonjour à vous.
Bonjour.
Co-auteur donc de ce livre. Bertrand Graz, vous êtes spécialiste médecin, hein, médecin spécialiste en prévention et santé publique. Et Jacques Falquet, biochimiste, également spécialiste des plantes. On voulait commencer par des exemples, hein. Adrien le disait, très concret. Alors, j'ai très mal dormi cette nuit, ça tombe bien. Tendance un peu à l'insomnie. Docteur, est-ce que vous auriez une plante à me proposer? Et comme j'ai dit docteur, évidemment, je m'adresse au médecin, donc à vous, Bertrand Graz.
Alors, comme le disait votre collègue, dans ces cas-là, on ouvre les chemins de décision. C'est facile à trouver parce que c'est les pages brunes dans le livre, dans 33 plantes.
Oui.
Et puis, on a une page insomnie. Alors là, on regarde les questions et les petits chemins, suivant ce qu'on a un oui ou un non. On regarde comment ça. Alors je vais vous poser la question tout de suite.
Oui.
Est-ce que c'est lié à un problème de santé ?
Non.
Très bien, alors on va dans le non, on descend à la petite flèche qui nous dit est-ce que c'est lié à un événement ou à une situation particulière ?
Oui.
Ah, dans ce cas-là, on va aller voir la fiche.
D'un micro,
par exemple. Voilà. Dans ce cas-là, on nous dit aller voir la fiche valériane. Et ce qu'on nous dit ensuite aussi, c'est que on peut faire un essai pendant 3 semaines. Et puis, en cas de résultat insuffisant, on va voir un médecin.
D'accord. Donc là, vous m'avez fait mon chemin de décision par rapport à mon insomnie.
Voilà.
Et vous êtes tombé sur la valériane, en fait.
La valériane. Alors
et
après,
vous me conseillez pendant 3 semaines, c'est ça?
C'est ça, parce que la valériane, c'est un produit qui agit pas comme un assommoir, mais qui agit peu à peu, qui régule le sommeil.
D'accord.
Donc il faut être un peu patient, quitte à dormir un peu moins pendant quelques temps à la suite de l'événement terrible que vous avez subi ce week-end.
Oui, c'est ça, exactement.
Ouais.
Cette nuit, en tous les cas.
Et ce matin, évidemment, cette rencontre face au micro.
Voilà.
Et de nous. Et alors cette valériane, comment est-ce qu'elle fonctionne?
Comment est-ce qu'elle fonctionne, vous voulez dire
Quels effets elle va avoir?
Alors,
en quoi elle va pouvoir m'aider?
Alors, il y a eu des études. Quand on dit scientifique, il faut voir aussi la différence entre des études moléculaires ou des études avec des animaux ou encore des études cliniques, c'est-à-dire avec des patients. Donc là, il y a eu des études avec des patients qui montrent que, par rapport à d'autres produits comme les benzodiazépines, hein, qui sont les somnifères habituels, que ça agit à peu près avec la même efficacité, mais avec moins d'effets secondaires. C'est ça qui est intéressant avec la valériane.
Donc aussi bien, entre guillemets, que les benzodiazépines.
C'est ce qui a été observé dans ces études cliniques comparatives. Mais alors, il y a une chose, c'est que ça a mauvais goût. Bon, vous direz que ça se mérite, mais on est toujours à la recherche d'une bonne recette pour préparer la valériane avec un bon goût. Donc là, si jamais quelqu'un a une idée, on s'intéresse beaucoup à ça.
Bah, un biochimiste, hein,
vous
n'aurez pas une idée, non?
Oui, là, on est presque dans les technologies des produits alimentaires. Il faudra aller voir du côté des aromatisants. Alors évidemment, on essaiera de rester naturel. Mais c'est vrai que c'est un obstacle, hein, parce que, comme vous savez, la compliance, c'est une grande part de l'efficacité d'un traitement. Et encore faut-il, le traitement peut être efficace, encore faut-il le prendre.
Oui, c'est ça. Mais parfois, on a l'impression que plus un médicament a un mauvais goût, plus il est efficace. Donc peut-être que dans le cas de la valériane, ça peut marcher aussi.
Peut-être que ça va va stimuler l'effet placebo. Mmh. Et comme l'insomnie, il y a toute une part de peut-être, alors, effet placebo, c'est très vague. Il y a des tas de choses là derrière. Pourquoi est-ce qu'on dort pas? Est-ce qu'on a peut-être simplement pas besoin d'autant de sommeil qu'on croit? Est-ce que on a besoin de réfléchir, de méditer, d'être un peu réveillé? Voilà. Donc, c'est l'occasion aussi de penser à ça quand on est insomniaque.
Après, il reste la question de comment on prépare ces plantes, parce que ça reste tout de même toujours un peu un sport. On va pas, par rapport à nos habitudes de consommateurs qui allons à la pharmacie acheter une pilule, quand on va trouver de la valériane, on va la trouver sous quelle forme et qu'est-ce qu'on va en faire?
Alors là, il y a les versions toutes prêtes pour le cas de des gens pressés ou des gens qui n'aiment pas faire leur tisane. Et puis, il y a aussi, alors la version à l'autre extrême, ça serait de profiter quand on se balade, si on est avec quelqu'un qui connaît bien les plantes, d'aller les récolter, de les sécher, de les préparer, ce qui peut être aussi une sorte de sport.
Parce que vous la prenez, en l'occurrence, la valériane sous forme d'infusion, notamment, c'est ça?
Moi, j'ai pas de problème d'insomnie ces temps, donc j'en prends pas.
Pas vous, alors, mais moi...
Mais alors, on peut la prendre sous forme d'infusion, ouais. Oui.
Alors ça, c'est un, donc la valériane, c'est un exemple tiré du chapitre Les plantes pour la tête, pour Stéphane. Maintenant, il y a un autre, on peut prendre un autre exemple. Par exemple, il est question dans cet ouvrage du saule blanc, Jacques Falquet, le saule qu'on utilise, entre guillemets, médicalement depuis le Moyen-Âge.
Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est un exemple tout à fait intéressant, le saule, parce que c'est une sorte d'aller-retour, dans le sens où on a commencé traditionnellement à utiliser le saule comme antidouleur, pour les maux de tête, par exemple. Et puis, de là, un intérêt a été éveillé auprès des chimistes qui ont essayé d'isoler les substances responsables de cet effet. Et, de fil en aiguille, on est arrivé, après des tours et des détours, à l'aspirine. Hein, l'aspirine, c'est de l'acide acétylsalicylique. Et le mot salicylique vient de salix, le saule. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que au fur et à mesure qu'on a utilisé cette aspirine massivement, hein, je vous rappelle que c'est quand même le médicament à peu près le plus utilisé sur la planète, et on s'est aperçu qu'il y avait des effets secondaires, parfois graves, hein, en particulier au niveau de l'estomac, de la muqueuse de l'estomac. Et ces effets, il semble qu'ils n'existent pas quand on se soigne avec le saule. Donc on a une sorte d'aller-retour. On a obtenu une substance très active, pure, qui était cette fameuse aspirine, on s'aperçoit qu'il y a des effets secondaires, on remarque que ces effets secondaires ne semblent pas exister avec la plante, et on a tendance à revenir à la plante.
On peut prendre un troisième exemple, peut-être.
Oui.
Il y a également les pour la toux. Étonnamment, je me suis rendu compte que la réglisse, qu'on peut retrouver en bonbon ou autre, on a vraiment confirmé scientifiquement que la réglisse avait une efficacité redoutable, entre guillemets, pour la toux, qui n'est pas facile à calmer.
C'est ça. C'est des études qui ont été faites en hôpital. On s'est aperçu que ça a diminué la toux après les opérations. Et alors, bon, ce qu'il y a avec la réglisse, c'est ça. En plus, elle a bon goût.
Contrairement à la valériane.
Donc, c'est assez agréable à prendre. Mm-hmm. Et peut-être que pour des gens de radio, le jour où vous avez une toux, au lieu de passer directement à la cortisone, vous pouvez essayer la réglisse, voir si ça vous arrange l'affaire.
On va tester, on pensera à vous lors de notre prochaine toux. Et si ça ne marche pas, on ne manquera pas de vous rappeler, Bertrand Gras, c'est sûr. Donc, il y a cette réglisse, on a évoqué le saule blanc, on a évoqué la valériane dans le cas de l'insomnie. Là, ce sont trois exemples. Alors voilà, sur ces 33 plantes abordées dans votre livre, 33 plantes validées scientifiquement. 33, pourquoi 33? Ça veut dire qu'il n'y en a pas plus. Toutes les autres plantes n'ont pas subi le même genre de tests pour savoir si elles étaient vraiment efficaces.
Alors attention, le problème, c'est que ces études, pour être rigoureuses, sont très, disons, fastidieuses. C'est très cher, c'est très long de se persuader qu'une substance est efficace, une plante est efficace. Ça demande justement des essais cliniques, ça demande même des méta-analyses, c'est-à-dire de comparer plusieurs études. Donc tout ça prend du temps. Mmh. Et puis c'est le problème aussi de financer ce genre d'études, parce que les intérêts ne sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire que développer une molécule nouvelle sur laquelle vous allez pouvoir obtenir une protection en vue d'une commercialisation, ce n'est pas du tout la même chose que d'essayer de travailler sur une plante que tout un chacun peut se procurer dans la nature. Et donc, vous n'allez pas avoir un retour sur investissement.
Donc, la pharmacie n'intéresse pas, c'est ça? Ou
c'est
peu
pas
à qu'elle ne
s'y intéresse pas. C'est que, on va dire, c'est tout à fait un autre modèle. Mmh. C'est un autre modèle. Si vous travaillez sur une plante dans l'idée d'en prouver l'efficacité telle qu'elle est utilisée traditionnellement, vous n'avez rien à protéger.
on peut rien protéger, donc pas d'intérêt particulier.
Donc, difficilement, c'est difficile d'en tirer un profit.
Et donc, si je vous repose la question, il n'y a aujourd'hui que 33 plantes dont on a vraiment mesuré les effets
Alors, il y en a nettement plus, mais nous avons fait une sélection des plantes qui non seulement ont subi tous ces tests au la main, on va dire, oui, mais en plus qui sont facilement disponibles en région européenne et qui ne présentent pas de risque de confusion. C'est-à-dire que des plantes pour lesquelles l'identification est facile.
D'accord.
Et qui en plus ont ce qu'on appelle une marge thérapeutique large, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque de toxicité.
Ok. Alors justement, on arrive à maintenant peut-être à une comparaison avec les médicaments. Vous l'avez évoqué déjà tout à l'heure avec les exemples qu'on citait. De temps en temps, vous mentionniez le fait que, en utilisant une plante par rapport à un médicament, disons de synthèse, hein, de chimique, les effets secondaires sont moindres. Donc c'est notamment un des intérêts d'essayer d'aller dans cette direction des plantes, c'est pour limiter les effets secondaires.
Tout à fait. Il y a encore un exemple qui est le millepertuis,
ouais,
très utilisé pour traiter la dépression. Et on s'est aperçu que par rapport aux médicaments de synthèse, on a moins d'effets secondaires. Mais par contre, il y a des interactions, c'est-à-dire que le millepertuis, on ne peut pas le prendre avec n'importe quel autre médicament. Il faut faire attention à ça quand même.
Jacques Falquet ?
Moi, je dois juste mettre un petit bémol. Hein. On a vu là quelques exemples où effectivement, la question des effets secondaires fait pencher la balance du côté des plantes. Ce n'est pas toujours le cas. On a des cas où certaines plantes présentent des effets secondaires dangereux. Mmh. Alors ces plantes n'apparaîtront pas dans ce livre.
D'accord.
Donc, ça veut dire quoi? Il y a un effet. À partir du moment où il y a un effet médical, il y a un potentiellement.
Très souvent. Et c'est pas parce que c'est une plante que systématiquement on peut dire ah on aura moins d'effets secondaires. C'est pas du tout le cas. Hein.
Moi je me demandais justement l'aspect coévolution. C'est-à-dire ces molécules naturelles ont coévolué avec le vivant, avec nous depuis des millions d'années. Est-ce que du coup elles sont justement moins nocives pour notre
Alors moi je le dirais
corps.
Pas au niveau de l'organisme humain parce que on a toujours des plantes dont on peut montrer l'extrême toxicité malgré qu'elles aient effectivement coévolué avec nous depuis
La manifoléide c'est pas très
voilà,
bon
ça reste bon c'est pas une plante c'est un champignon
oui, d'accord, disons,
mais il y a des plantes très toxiques aussi comme l'if par exemple
Par contre là où il y a un point c'est sur l'écotoxicité. C'est-à-dire que quand vous avez une plante, tous ces produits, toutes les molécules fabriquées par la plante, leur devenir dans la nature, là, il n'y a aucun problème d'élimination. Ce n'est pas du tout le cas, et on le voit maintenant avec toute la problématique des micropolluants. Vous savez que des tas de molécules de synthèse se retrouvent dans les eaux usées. Hein, ça a été utilisé par exemple comme médicament. Voilà, on les a excrétées, on les retrouve dans les eaux. Et certaines sont extrêmement nocives et très difficiles. C'est très difficile de s'en débarrasser. On n'aura jamais ce cas avec une substance naturelle qui, par définition, est intégrée au cycle naturel.
Par contre, sur l'effet d'une substance naturelle sur l'organisme humain, il n'y a pas de règle générale. Et en fait, quand on regarde sur Internet, par exemple, ou dans les bouquins, les maîtres courants de livres sur les plantes, on trouve un peu tout et son contraire. Mmh. Et c'était une des raisons pour lesquelles on a fait ce livre. C'était pour essayer de faire le point à partir des études
sans des grandes théories, du genre seules les plantes, elles sont gentilles, les médicaments sont méchants.
Ouais.
Voilà. Une chose assez intéressante quand on regarde vos parcours à tous les deux, Bertrand Grade et Jacques Falquet, c'est qu'on remarque que vous avez tous les deux commencé à vous intéresser à la médecine par les plantes, plutôt dans les pays du Sud. Notamment vous, Bertrand Grade, c'était au Sultanat d'Oman, c'est juste?
Oui, c'est là que j'avais fait ma thèse de médecine et j'ai étudié une manière de traiter une maladie des yeux avec un produit local qui était, c'était pas une plante, enfin oui, c'était dérivé d'une plante, c'était la gomme arabique utilisée pour coller les cils en dehors de l'œil dans certains cas où ils frottent l'œil et ça protégeait l'œil. On s'est aperçu que ça empêchait la cécité, ça faisait que les gens ne devenaient pas aveugles. C'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser aux traitements locaux en me disant tiens, c'est pas tout du pipeau, il y a de temps en temps des choses qui peuvent être intéressantes là-dedans.
Alors ce qui est marrant, c'est que vous dites c'est pas tout du pipeau, mais il y a quand même parfois du pipeau. On peut prendre un autre exemple sur lequel vous avez travaillé ensemble, notamment au Mali, sur les plantes qui protègent du paludisme. Et là, Jacques Falquet, vous avez participé à une grande enquête et on va revenir sur c'est pas tout du pipeau parce que c'est un détail intéressant.
Bon, alors, d'abord, je rectifie, c'est pas qu'il protège du paludisme, c'est qu'il le soigne. Donc, c'était justement sur des plantes utilisées d'une manière curative. Et là, effectivement, on a étudié toutes sortes de recettes qu'on a collectées directement auprès des familles qui se soignaient avec des plantes. Et on essayait d'associer les plantes dont on nous rapportait l'usage avec leur effet. Dans le sens où on demandait aux gens, vous avez utilisé telle plante, qu'est-ce qui s'est passé? Et en faisant des tableaux croisés, on s'est aperçu que dans la centaine de plantes qui nous a été citée, toujours pour le paludisme, toujours pour la même indication, il n'y en avait que certaines, en fait très peu, qui étaient systématiquement associées à de bons résultats. Mais alors là, attention, ça ne veut pas dire que les autres ne marchent pas. Hein, ce serait trop simple. Mmh. Ça, ce n'est qu'un indice. Alors évidemment, nous, on a utilisé les plantes qui étaient systématiquement associées à des rapports de bons résultats pour continuer les études. Les autres, je dirais qu'on ne peut rien en dire à ce stade.
D'accord, parce que finalement, vous avez trouvé cette, c'est quoi, l'argémone mexicana, c'est
voilà, comme ça l'argémone mexicana, c'est un pavot épineux.
Qui marche extrêmement bien, pour nous guérir. Nous, ça ne nous guérirait pas forcément du paludisme.
Alors, il faut distinguer. Hein. D'abord, on parle de paludisme simple, c'est-à-dire qui n'est pas associé à des comas. Disons, le paludisme qui se manifeste essentiellement par des grosses fièvres. Et là, il faut distinguer les populations qui sont dans des régions où le paludisme est très fréquent. Ces populations, elles possèdent ce qu'on appelle une semi-immunité. C'est tout à fait différent du cas du touriste qui, lui, arrive naïvement avec son système immunitaire qui n'a jamais vu le parasite. Mmh. Et là, c'est tout à fait autre chose. Donc, nous avons étudié l'effet de cette plante avec des populations qui sont semi-immunisées.
Oui, donc ce n'est pas une affaire d'appartenir à telle ou telle population, non. C'est une affaire de durée de séjour dans le pays.
Alors justement, juste pour revenir à ce résultat, donc vous avez étudié une plante qui marche extrêmement bien, des centaines, comme vous dites, on ne sait pas trop, mais a priori, il y avait quand même qu'une ou deux plantes qui fonctionnaient très bien et un gros déchet. Ce qui veut dire que si on ramène ça ici en Europe, c'est un peu pareil avec les remèdes de grand-mère. On peut imaginer que sur 100 remèdes de grand-mère, il y en ait un ou deux qui soient vraiment efficaces.
C'est possible, mais ça demanderait de confirmer. En plus, il faut faire attention avec cette notion de ça fonctionne ou ça fonctionne pas. L'approche actuelle de recherche, c'est une recherche sur une base statistique. C'est-à-dire, ce qu'on essaye de déterminer, ce sont les médicaments qui fonctionnent la plupart du temps. Avec une population prise au hasard, on a les meilleures chances d'obtenir une guérison. Ça ne signifie pas que tel ou tel plante ou médicament fonctionnera très très bien dans un cas particulier. Évidemment, c'est moins intéressant en termes, si on s'intéresse à la santé publique, on s'intéresse sur une base statistique.
Ça, c'est vrai pour tous les médicaments.
C'est vrai pour tous les traitements. Pour les plantes, ouais. Parce que la plupart de nos maux, de nos maladies ont tendance à guérir toutes seules. Alors, à ce moment-là, si on peut imaginer qu'on aurait pu guérir sans le traitement, la guérison prouve rien.
Mmh. C'est ça. Ouais. Si on revient à votre livre, donc c'est 33 plantes validées scientifiquement aux éditions Fabre, qui n'est pas un ouvrage de médecine tropicale, vu qu'on était notamment au Mali à l'instant, mais on est vraiment, on le disait, avec des plantes qu'on trouve ici, chez nous, notamment en Suisse. Si on a ces plantes-là, en l'occurrence 33, qui fonctionnent si bien, comment ça se fait, je m'adresse à vous, le médecin finalement, Bertrand Gras, comment ça se fait qu'on n'en retrouve pas plus dans les cabinets des médecins, dans les hôpitaux? Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas davantage, on prescrit pas davantage ces plantes, peut-être à la place d'autres médicaments?
Alors déjà, une chose, c'est que dans la formation des médecins, on parle très peu des plantes. Mmh. On a abandonné la botanique dans les études de médecine il y a au moins 50 ans. Et puis, peut-être qu'il y a aussi la crainte du dosage imprécis avec les plantes, parce qu'elles sont variables. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a choisi des plantes pour lesquelles on peut avoir un dosage assez imprécis, et ça va aussi. Ensuite, c'est parce qu'il n'y a pas toute la machinerie de marketing sûrement derrière les plantes, puisque c'est des choses qui n'appartiennent pas à une personne ou à une entreprise. Je ne sais pas si tu as d'autres idées.
Non, je pense qu'il y a aussi un effet d'inertie, c'est-à-dire qu'il faut un certain temps pour qu'on se rende compte de ce niveau de preuve que certaines plantes ont atteint. Et voilà, c'est une des raisons de faire ce livre.
Alors il y a un petit pic dans votre livre. Cet ouvrage a été réalisé en toute indépendance, les auteurs n'ayant vis-à-vis des plantes médicinales aucun autre intérêt que la curiosité. Donc là, c'est par rapport au conflit d'intérêts qu'auraient des médecins avec les pharma, c'est ça? Vous réglez discrètement des comptes?
Non, c'était pas du tout ça l'idée. C'est que je crois que c'est notre vraie motivation. À partir de ce qu'on a observé sur des plantes, et en particulier de voir qu'il y a un certain nombre d'études qui sont publiées maintenant, on a eu envie de mettre tout ça ensemble et d'en tirer un guide pratique qui donne des stratégies de soins qu'on puisse utiliser tout un chacun.
ce guide pratique qui s'appelle donc 33 plantes validées scientifiquement aux éditions Favre, avec les deux auteurs de cet ouvrage qui étaient avec nous aujourd'hui dans CQFD, Bertrand Gras, médecin spécialiste en prévention et santé publique, et Jacques Falquet, biochimiste spécialiste des plantes. Merci d'être venu, d'avoir répondu à l'invitation de Adrien Zerbini.
Avec plaisir.
Voilà. Puis on souhaite d'avoir une belle santé, comme voilà, vous avez l'air d'en avoir une, grâce aux plantes peut-être notamment. On vous remercie d'avoir été aujourd'hui dans CQFD.